Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, au Chili, le nouvel élan des mobilisations féministes.
Oui, nous allons tenter d'apporter un regard un petit peu genré sur les événements politiques majeurs qui sont annoncés pour ce dimanche. Les électrices et les électeurs chiliens sont appelés à se prononcer sur une réforme de la Constitution après un mouvement social et politique historique de contestation l'an dernier. Et nous allons nous intéresser ce matin en particulier au rôle des femmes donc et des mouvements féministes dans cette transformation à l'œuvre au Chili. C'est dans le cadre du partenariat des enjeux internationaux de France Culture avec RIS, la revue internationale et stratégique éditée par l'IRIS, revue qui consacre le dossier de son nouveau numéro cet automne à la géopolitique par le genre. Et pour en parler, nous sommes par téléphone avec Franck Godichaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, et chercheur au sein du laboratoire Framespa. Alors vous avez donc co-signé un article de la revue que je mentionnais il y a un instant. Sans féminisme, il n'y a pas de démocratie. Réflexion sur le nouvel élan des mobilisations féministes au Chili. C'est le titre de votre article, Franck Godichaud, avec un emprunt, une citation de la sociologue et militante féministe Julieta Kirkwood, disparue en 85. Vous écrivez dans cet article, la question de la place des femmes dans la société chilienne se pose avec une grande acuité à l'heure où le pays s'apprête, à la suite de la crise sociale et politique débutée en 2019, à décider du sort de sa constitution héritée de la dictature militaire. Vous écrivez aussi, les féministes chiliennes entendent bien peser sur ce moment historique à venir afin de graver dans le marbre constitutionnel la lutte contre les discriminations et violences de genre. Ma première question, Franck Godichaud, quelle place spécifique occupe le mouvement féministe dans cette transformation majeure que s'apprête à vivre le Chili ?
Eh bien, les féministes, elles sont vraiment devenues un acteur social central du mouvement populaire chilien. On a bien vu, y compris depuis la France, depuis octobre 2019, la force de cette rébellion qu'il y a au Chili. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mouvement féministe, ça fait plusieurs années qu'il se constitue, qu'il se massifie. Notamment 2018, l'occupation des universités, c'est d'ici qu'un peu se consolide ce mouvement. 2019, il y a eu la grève féministe le 8 mars, jusqu'à arriver en mars 2020, on a eu presque 2 millions de personnes qui ont suivi les mobilisations du mouvement féministe, notamment de la coordination du 8 mars. Donc on peut dire qu'elles sont devenues un des acteurs vraiment centraux de la mobilisation et de la contestation des héritages autoritaires au Chili.
Alors Franck Godichaud, on va revenir un peu dans le détail sur toutes ces étapes justement des mobilisations récentes des mouvements féministes au Chili. Mais très concrètement, dans le cadre de ce référendum qui est annoncé et dans le cadre de changements constitutionnels et politiques, quel rôle veulent jouer les mouvements féministes ? Est-ce qu'il y a déjà union entre ces mouvements féministes et notamment sur la forme que pourrait prendre leur action et le sens de leur action ?
Alors disons qu'il y a débat, bien entendu, il faudrait parler des féminismes au pluriel, mais pour une majeure partie d'entre elles, l'idée c'est de participer activement dans ce moment constituant qui s'ouvre ce dimanche au Chili, l'idée de l'importance d'être présente, de revendiquer en fait une assemblée constituante féministe, plurinationale, libre, souveraine, tout en reconnaissant les limites des possibilités pour l'instant des accords qui ont été signés en novembre dernier et donc potentiellement de cette convention constitutionnelle qui devrait se mettre en place à partir d'avril. Donc en gros, leur idée, c'est intervenir dans le moment politique tout en dénonçant les limites.
Alors Franck Godichaud, sur le fond, vous expliquez dans votre article que les mouvements féministes sont aux avant-postes des mobilisations sociales du Chili parce que le modèle chilien actuel, et il faut rappeler que la constitution qui est en vigueur actuellement date donc des années Pinochet, de 1980, donc cette constitution et ce modèle politique fragilisent les femmes et leur empêchent le plein accès à la citoyenneté. Et vous donnez des exemples, par exemple la question de l'endettement, pour la capacité à s'endetter pour faire des études, puisque toutes les facultés ou presque du Chili sont privés, le modèle privé en tout cas est dominant. Ces femmes peuvent plus difficilement assumer ce recours à l'endettement. On pourrait parler aussi en particulier de l'accès à la santé, avec des discriminations que vous relevez, des assurances privées, pour les questions des grossesses par exemple, les régimes de retraite, etc. On pourrait multiplier les exemples. La société chilienne, donc Chili, un pays latino-américain, plutôt patriarcal, par rapport à ses voisins latino-américains notamment, en quoi est-elle plus discriminante sur pour ce qui concerne les conditions de vie des femmes ?
Bien oui, c'est ça. En fait, la société chilienne, elle est extrêmement conservatrice. Hein. Il faut rappeler le poids de l'Église catholique. On pourrait donner des exemples. Le divorce au Chili n'est légal que depuis 2004, par exemple. L'avortement reste très limité et il y a des possibilités d'avortement que depuis 3 années.
Alors ça, c'est depuis la présidence Bachelet. Il faut rappeler, donc l'avortement au Chili, c'est quelques cas possibles, notamment en cas de danger sanitaire, en cas de viol évidemment, mais avec des limitations, notamment des clauses de conscience et notamment une clause de conscience institutionnelle.
Exactement. On a une société aussi qui est le paradis du néolibéralisme. On l'a parfois appelé pays laboratoire. Et donc les institutions catholiques de santé sont très nombreuses, et dans ces institutions, il y a une clause de conscience institutionnelle qui fait qu'on ne pratiquera pas l'avortement. Et puis le néolibéralisme, c'est là aussi la force du mouvement féministe, c'est de dénoncer ce qu'elles appellent la précarisation de la vie dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, avec des salaires inférieurs de 30%, les assurances de santé, vous l'avez dit, qui discriminent, la violence de genre et les féminicides. Elles essaient donc de lier société conservatrice patriarcale, modèle néolibéral, et au travers de cette idée de lutter contre la précarisation de la vie, c'est aussi dans tous ces domaines-là qu'elles essaient d'avancer des revendications d'un féminisme décolonial et radical.
Alors, décolonial et radical, là, voilà, vous me tendez un petit peu une perche, Franck Godichaud. J'allais vous interroger sur l'union de ce mouvement féministe. Est-ce que cette façon, très à gauche, d'envisager justement les luttes féministes est consensuelle dans le mouvement actuel ? Est-ce qu'il est majoritaire dans les mouvements féministes ? Vous écrivez dans votre article qu'il y a aussi un féminisme qui est beaucoup plus institutionnel. Et il faudra revenir aussi sur ce qu'ont été aussi peut-être les avancées de la cause des femmes dans... ces dernières décennies. Aujourd'hui, ces revendications se passent principalement du côté de la gauche, mais il y a aussi un féminisme plus institutionnel.
Oui, tout à fait. Vraiment, c'est un champ qui est pluriel, qui est en tension. Il y a des débats très très polarisés, même parfois au sein de cet espace féministe. Historiquement, il y a eu plusieurs moments de constitution. Les années 30 à 50, c'était la lutte pour le suffrage universel. Les années 70-80, c'était Allende. On est à 50 ans de l'élection d'Allende. On est dans un moment important de ce point de vue historique. Mais aussi les luttes contre la dictature dans les années 80. Et 90, la transition où apparaît un féminisme beaucoup plus institutionnalisé, qui va intégrer les ministères, les espaces politiques.
Alors j'ai relevé notamment en 91, création du Service National de la Femme et de l'Égalité de Genre, CERNAM, avec, et vous dites, Franck Godichaud, que certaines féministes y sont déjà intégrées dès 91 et y font carrière. Donc en fait, effectivement, dès les années 90, il y a des divisions et des carrières possibles dans cette démarche institutionnelle.
Exactement, oui, oui. Et là, il y a une première division entre un féminisme plus libéral, plus institutionnel, qui parvient à quelques avancées réelles. Et de l'autre côté, un féminisme autonome, parfois même libertaire, de gauche, qui revendique cette autonomie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette dernière vague, à partir de 2016-2018, c'est vraiment la jeunesse, les jeunes femmes, souvent étudiantes ou même des lycées, des collèges, qui sont aux avant-postes de la reconstitution d'un féminisme très autonome, de rue, on peut dire, d'assemblée territoriale, qui traduit avec la coordination du 8 mars, qui va réussir à regrouper plus de 60 petites organisations. Alors. Et cette jeunesse, finalement, elle a ensuite attiré à elle les féministes les plus anciennes, qui les suivent désormais.
Et avec des effets d'entraînement, effectivement, que vous décrivez dans votre article, Franck Godichaud. Pour revenir un petit peu sur la genèse de cette résurgence de la question féministe au Chili, il faudrait citer évidemment, alors c'était plutôt en Argentine, le mouvement Ni Una Menos en 2015, qui avait beaucoup choqué, hein, la mort dans des conditions atroces, le féminicide de Diana Garcia en 2015. On a aussi eu les répercussions locales du mouvement MeToo, qui était mondial. Et donc, ces mouvements ont eu leurs répercussions au Chili. Chili. Mais ce qui a fait basculer vraiment le mouvement, ce sont des cas de harcèlement à l'université. Justement, vous parliez des jeunes. Comment ça s'est passé concrètement et comment des universités, on est passé à toute la société chilienne ensuite?
C'est peut-être une des spécificités, effectivement, du mouvement chilien, car il y a bien une géopolitique du genre en ce sens où il y a vraiment des échanges, des circulations internationales, notamment avec l'Argentine. Mais là, au Chili, c'est le mai féministe de 2018, c'était une sorte de ras-le-bol des jeunes femmes face aux abus sexuels, au harcèlement de la part notamment des professeurs universitaires ou entre étudiants. Et il y a eu pendant des mois occupation d'une dizaine d'universités dans tout le pays autour de la revendication de mettre fin à une éducation sexiste et en même temps d'une éducation très privatisée, marchandisée, néolibérale. Et c'est ce moment très important, il a permis de reconstituer des liens, une sorte de coalition de la jeunesse féministe qui ensuite a débordé très largement dans la société, au sein du mouvement syndical, par exemple.
Et qui a abouti aux mobilisations qu'on a connues et donc qui s'exprimeront notamment ce dimanche lors du mouvement pour le changement constitutionnel au Chili. Merci beaucoup Franck Godichaud. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine. On peut retrouver votre article sur les mobilisations féministes au Chili dans le dernier numéro de la revue RIS, revue internationale et stratégique éditée par l'IRIS. Toutes les références sur la page des enjeux internationaux. Merci à vous.